Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Viridiana, Tristana, le charme discret de la bourgeoisie et cet obscur objet du désir. À partir des années 60, les films de Louise Buñuel ont fait de Fernando Rey un acteur reconnu internationalement et de sa génération le plus célèbre comédien espagnol. Bien entendu, y ont contribué également son personnage de French Connection 1 et 2 et le film de Carlos Saura, Elisa Vidamilla, pour lequel il reçut le prix d'interprétation du Festival de Cannes en 1977. Pour autant, de ce côté-ci des Pyrénées, si sa silhouette, son visage, sa barbe sont devenus depuis longtemps familiers au public des salles obscures, on ne sait en général pas grand-chose de la personnalité et de la carrière de Fernando Rey, qui débuta en Espagne dès les années 30. En 1996, 2 ans après sa disparition, Philippe Garbi invitait les auditeurs des Mardis du cinéma à mieux connaître le Don Lope de Tristana, le Mathieu Faber de Cet obscur objet du désir et le Alain Charnier de French Connection en rencontrant certains de ceux dont il avait été proche. Jean-Claude Carrière, son ami, et comme on le sait, scénariste de nombreux films de Louise Buñuel, l'agent de Fernando Rey, Ana Alvarez Correa, ainsi que Juan Luis Buñuel, fils de son père et réalisateur lui-même. Une émission à laquelle participait également le réalisateur et producteur Pierre Grimblat, le photographe Guillermo Villela et Emmanuel Larraz, spécialiste entre autres du cinéma espagnol et hispanophone. Mardi du cinéma, Fernando Rey, diffusé le 27 février 1996 sur France Culture.
Tout le monde connaît sa voix, son regard, son sourire pâle, sa barbe, son visage, sa silhouette, sa démarche. Tout le monde l'a vu dans des films, dont les titres peuvent échapper à la mémoire du cinéphile. Tout le monde peut se tromper et croire l'avoir vu dans des films où pourtant il n'apparaît pas. Tout le monde connaît sa voix, oui, mais est-ce sa vraie voix? Sa propre voix espagnole, parlant l'espagnol? Une voix d'espagnol parlant le français? Une voix française, sans accent? Tout simplement parce que doublé par différents acteurs, version française oblige, ou parce qu'un réalisateur ami le souhaite. Mardi du cinéma, Fernando Rey.
Fernando Rey. Oui, Rey qui veut dire roi, c'est d'ailleurs un pseudonyme. Fernando était le fils d'un grand général espagnol, très célèbre, qui, pendant la guerre civile espagnole, a été un des très rares généraux à prendre le parti des républicains. Et c'est une histoire très étonnante parce que Franco avait une grande admiration pour le père de Fernando, et lequel a été condamné à mort à la fin de la guerre, bien entendu, comme tous les généraux rebelles, entre guillemets. Mais Franco a réussi à le faire gracier et à le faire vivre encore très longtemps, puisqu'il est mort en 70 ou 71, le père de Fernando, pendant le tournage du Charme discret de la bourgeoisie. Donc il a vécu encore une trentaine d'années. Mais il était officiellement mort. Il ne pouvait pas sortir de chez lui. Et sa mère, la mère donc de Fernando, qui avait son mari à la maison, bien vivant, recevait une pension de veuve symbolique de guerre. Alors voilà un peu l'ambiance très espagnole dans laquelle Fernando a grandi.
Mira, esa es la polar. Y el carro. Yo de pequeño me sabía muchos nombres de estrellas.
Y yo, Greta Garbo, Marlene.
es bastante malo, ¿eh?
¿Y qué quieres? A 3 bajo 0. Bueno, ¿por qué no lo dices?
¿Decir el qué?
¿No se saca a pasear a una chica de madrugada y a tres bajo cero para hablarle solo de la osa mayor?
No seas impaciente, mujer. Estoy buscando una situación parecida en alguna buena comedia.
Muy bien. ¿Podemos hacer la escena del segundo acto de El pecado de Elena?
No me conviene mucho. Prefiero el tercer acto de siempre, tú.
Souvenir de Ferlando, en particulier une fois, ça c'était après la mort de Louise. Ça devait être à la fin des années 86 ou 87, quelque chose comme ça.
Jean-Claude Carrière.
Il y a eu une exposition Buñuel à Barcelone. Et nous y sommes allés, un groupe des buñuelistes, disons des amis ou collaborateurs. Et j'ai rencontré Fernando. Et un jour nous avons déjeuné tous les deux, ça nous sommes retrouvés par hasard. Et puis il m'a amené à faire un tour dans les ruelles de Barcelone pour me montrer les petits théâtres dont certains avaient disparu, étaient remplacés par des épiceries ou autre chose, des magasins de vêtements, je me rappelle, dans lesquels il avait débuté juste après la guerre comme jeune acteur. Et en me racontant comme ça des anecdotes de ce temps-là, un temps qui paraissait être le 19e siècle et qui en fait était beaucoup plus proche de nous. De tous les souvenirs que j'ai de lui, d'une centaine de repas pris avec lui, au moins, je ne sais combien, c'est de cette promenade-là, quelquefois, que je me souviens avec le plus de délectation. C'était vraiment formidable de voir cet homme, comme ça, remettre ses pas dans sa jeunesse et même, par moments, me réciter encore des lambeaux des rôles qu'il avait tenus.
Y te parece suficiente, ¿no?
¿Qué quieres decir?
Eso. Te quiero, Ana. Te quiero, Miguel. Y todo resuelto.
Yo no he dicho que esté todo resuelto.
Lo que quieras.
Pero al menos podemos intentar solucionar las cosas juntos.
Conforme, ya puedes empezar. ¿Cuál es tu solución?
Ay, Miguel, no seas insoportable. ¿Y yo qué sé cuál es? No se me ocurre más que una. ¿Seguir?
¿Seguir? ¿Cómo? A ver, explícate.
¿Cómo hasta ahora?
¿Cómo hasta ahora? ¿De verdad?
Ay, Miguel, no me atormentes.
Es difícil. Muy difícil. Yo creo que imposible.
Bueno, supongamos que lo sea. ¿Qué tiene que ver todo eso con que nos queramos?
Hombre, tiene gracia. Precisamente porque nos queremos es difícil. Si no...
¿Si no qué?
Lo sabes demasiado. Eres tú lo único que me retiene aquí, en el teatro.
¿Quieres dejarlo, no? ¿Tan pronto te rindes?
Sí. A ti te queda todavía la esperanza. A mí ya no.
¿No quieres luchar?
No sé luchar. Nunca he sabido.
Miguel.
Vas a decir que soy un pesimista, ¿no?
¿Y no lo eres?
Es posible. Desde luego el futuro no lo veo nada risueño. Al menos para mí.
¿Para mí sí?
Sí, para ti sí.
¿Por qué?
No sé. No te puedo decir las razones exactas. Es una sensación.
¿Crees que puedo triunfar?
Sí, eso creo. También puedo equivocarme.
¿Y respecto a ti?
¿Qué?
¿No te equivocas?
No. Sé exactamente que no llegaré nunca muy arriba. Quedaré entre dos aguas, uno más. Y a mí eso no me va, o César o nada.
La carrière de Fernando Rey s'est d'abord déroulée en Espagne.
Emmanuel Larraz.
Il a eu une projection internationale lorsqu'il a connu Buñuel. Ça, il est certain, lui-même le reconnaît, que le fait d'avoir rencontré Buñuel pour le tournage de Billy Diana en 1960 a fait de lui très vite l'acteur espagnol le plus connu dans le monde. Il a eu une projection internationale. Mais en 1960, il avait déjà une très longue carrière derrière lui. Le problème, c'est que le cinéma espagnol de cette époque n'a pas été vu à l'étranger, dans les pays, en dehors des pays hispano-américains, disons, où ils ont été vus tout de même, ce qui représente quand même un public important. Mais en France, par exemple, on n'a pas vu les films espagnols des années 40-50.
On a vu quand même quelques films de Bardem.
Oui, alors là, c'est très bien de parler de Bardem, parce que avant Buñuel, la rencontre avec Bardem a été fondamentale également. C'est-à-dire, Fernando Rey d'abord ne s'appelait pas Fernando Rey, il s'appelait Fernando Casado. Et à la fin de la guerre, Fernando Casado et son père, le colonel Casado, se sont retrouvés à Valence. Le père a refusé de quitter l'Espagne, dont il a été fait prisonnier, condamné à mort, mais gracié par Franco. Et Fernando Casado a été dans un camp de regroupement, disons, avec des milliers de prisonniers. Il a réussi à s'échapper et il a vécu quelques années sans papier. C'est une situation vraiment tragique. Il a connu enfin, la faim, l'humiliation de ces années-là. Il était quelqu'un d'une famille de la grande bourgeoisie. Dans des interviews qu'il a accordées, il racontait toujours comment ça avait été spécialement dur, car il n'était pas préparé à une vie misérable comme cela. Et c'est là que le seul travail qu'il ait trouvé, au début, ça a été un travail d'acteur, d'abord de figurant. Il dit aussi que dans le milieu des acteurs, disons, les gens étaient plus libéraux, qu'il a été accueilli. Et également, il disait avec humour qu'il n'était pas spécialement, enfin, d'abord, il n'était pas du tout préparé, il n'avait jamais suivi des cours d'acteur, donc c'est un acteur instinctif. Il n'était pas aidé par son physique, parce que c'est très curieux de voir des films de Fernando Rey dans les années 40 ou 50. On l'avait surnommé en espagnol moflete, c'est-à-dire il avait des grosses joues.
Il était grand et c'est bien pour les Espagnols, ils sont pas très grands. Et
Guillermo Villela.
Je crois qu'il était pas beau, il le savait.
Quand et où était-il né?
Alors il est né en Galice, à La Coruña. Je pense à la Corogne, hein, en 1917. Donc, il est mort en 1994, il avait 77 ans. Et il a commencé à tourner dès 1944, il avait 27 ans, je pense, en 1944. Avant, il était figurant. Et quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a commencé à gagner sa vie. Bon, comme figurant, c'était pour survivre. Et il a commencé à gagner sa vie en se servant de sa voix. Car en tant qu'acteur, ce qui était remarquable, c'était sa voix. Donc il a travaillé, il a commencé à gagner un peu d'argent en doublant des films, les films étrangers, et spécialement les films anglo-saxons, disons. Et également, une partie de sa réussite est due au fait que, comme il était d'une famille, disons, d'origine de la grande bourgeoisie, il avait une éducation... Et il parlait un petit peu le français et l'anglais. Et en particulier l'anglais, car il y a très peu d'acteurs à l'époque qui parlaient anglais. Donc cela a permis qu'il ait ensuite une carrière internationale.
Tu no eres cómico.
Vaya, vas a soltarme una conferencia sobre la humildad del cómico.
No, descuida. Yo no entiendo gran cosa de todo eso.
Entonces.
Sigo simplemente. Sigo y espero.
Yo abandono. Volveré a casa.
¿No quieres esperar hasta Madrid?
¿Para qué? ¿Qué hay allí?
Hombre, siempre habrá más oportunidades que en tu pueblo.
Hablas por ti. ¿Confías en esa comedia?
Sí. Don Antonio me dijo...
Es bien poca cosa lo que dijo.
Me basta.
Tú verás. Yo vuelvo a casa. Total, nos pilla camino de Madrid.
¿Nos?
Sí. Quiero que vengas conmigo. Que nos casemos.
No, Miguel.
Ya. Prefieres esto.
Je crois qu'il voulait une vie plus tranquille et plus quelque chose de plus sûr. Par exemple, à la fin des années 40, c'est ce qu'il voulait, c'était être engagé par une grande maison de production espagnole qui s'appelait Cifesa, où il y avait Jorge Mistral, Aurora Bautista. Et lui, il n'arrivait pas à se faire engager et je crois qu'il a... essayer d'arrêter plusieurs fois le métier d'acteur. Alors vous savez qu'il y a eu un moment où ça marchait très bien pour lui. Il avait arrivé à faire le jeune premier. Et le distributeur de films, le propriétaire des salles, demandait au producteur de ne pas engager Fernando Rey pour le rôle principal. Ça, pour lui, c'était terrible.
Pourquoi?
Parce que, par exemple, il a fait un film qui s'appelait Locura de Amor. Ça veut dire folie d'amour, c'est l'histoire de la reine Jeanne la Folle. Et le mari, il était célèbre pour sa beauté. Alors, on ne trouvait pas le Philippe le Beau, ça s'appelait, Philippe le Beau. Et donc, on ne sait pas pourquoi, c'est lui qui l'a fait alors qu'il n'était pas spécialement beau. Et ce film a eu un succès énorme. en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Espagne. Et l'actrice, elle est devenue célèbre. Elle était l'actrice la plus chère de l'Espagne. Elle s'appelait Aurora Bautista. Et après ces films, donc, on lui donne d'autres rôles en espagnol, on dit galán. C'est le jeune premier, mais pas vraiment le jeune premier, c'est le rôle principal. Et donc, il a fait un film de Raphaël Gil qui s'appelle Mare Nostrum. C'est une roman de Blas Cubáñez. Et avec Maria Félix. Donc, pour lui, c'était très important. Bon, après la projection du film, le distributeur lui demandait à Raphaël Gil de ne plus le prendre. Et il a fait quand même un autre film avec une actrice française qui s'appelait Marie Déa, les aventures de Gil Blas, je crois que ça s'appelle. Et ça, ça a été la fin de sa carrière comme l'héros du film. Et de là, il a commencé à faire de petits rôles, comme s'il commençait, c'était déjà les débuts des années 50. Et il a fait toutes sortes de coproductions avec, surtout avec l'Italie. Des films qui peut-être n'existaient plus parce que c'était vraiment des films très obscurs.
Il commence à être connu, à avoir un rôle très important en 1948, dans Folie d'amour, et en même temps, il y a toute une production qui n'est pas connue, en dehors, disons, des pays de langue hispanique, mais tous ces films ont été énormément projetés en Amérique latine également. C'est des films cléricaux, très étonnants, assez étonnant d'avoir également Fernando Rey en moine. Par exemple, un film qui a quand même été vu dans le monde entier, qui s'appelle Marcelino Pan y Vino, Marcelin, Pain et Vin, dont il y a eu un remake qui a été fait récemment, et il apparaît par exemple en moine, car c'était le cinéma que l'on faisait à l'époque. Et alors là, également, il y a la rencontre avec Bardem, qui a été déterminante, et dans l'histoire du cinéma espagnol, c'est dans les années 50, hein, il y a Bardem et Berlanga, hein, qui sont découverts à Cannes en particulier, avec un film qui s'appelle Bienvenue, Mister Marshall, hein, qui est un film de 53. Et là, c'est très intéressant, car Fernando Rey est déjà présent. On ne le voit pas à l'image, mais c'est la voix. Il y a un narrateur, et justement, on a choisi Fernando Rey, car c'était, de tous les acteurs espagnols, celui dont la voix était très connue et admirée. Et ensuite, donc, il commence à travailler avec Bardem. Alors, il faut situer Bardem, qui est toujours en activité. Hein. Bardem, l'avoir dans les 70 ans maintenant. Et Bardem, c'était vraiment l'opposition, c'est quelqu'un qui était au comité central du Parti communiste espagnol, qui était interdit, mais c'était un intellectuel très engagé. Et donc, Fernando Rey revient, disons, dans un groupe d'amitié qui était plus en accord avec ses origines, la tradition républicaine de sa famille. Donc il est près de Bardem, il tourne dans un film qui s'appelle Comédien, Comicos, qui est un film absolument, disons, l'optique, un film engagé, où Bardem réfléchit sur l'exploitation des comédiens en Espagne. Ce qui est vrai, c'est devenu actuellement un document, hein, sur la situation des comédiens à l'époque, Bardem étant lui-même fils d'acteur. Ensuite, il tourne dans un film, une coproduction avec l'Italie, un film très ambitieux qui s'appelle La Vengeance, hein, avec Ralph Vallon, Carmen Sevilla. Ça, c'est un film en 57. Et c'est également, disons, c'est les consignes du PC espagnol de l'époque. C'était la réconciliation. Donc, c'est une parabole. C'est quelqu'un qui a été en prison. Lorsqu'il sort de prison, il veut se venger, mais finalement, il pardonne. Donc, c'était les positions du PC. Et également, un film qui a été important pour la carrière de Fernando Rey, c'est l'adaptation d'un grand écrivain espagnol, Valle Inclán, un grand dramaturge, l'adaptation de romans, les sonates d'été et sonates d'automne. C'est un projet très ambitieux et c'est là qu'il va tourner au Mexique. Et ça va être l'origine de sa rencontre avec Buñuel. Disons, Buñuel, ça aussi, Fernando Rey l'a souvent raconté et il a assuré que ça n'était pas une plaisanterie. Buñuel a vu la projection de ce film, Sonatas, et il a été frappé par l'image où Fernando Rey était mort. Hein, il jouait le rôle d'un officier mort, et Buñuel a trouvé donc qu'il faisait vraiment le mort, un mort très impressionnant. Et il a voulu, il a pris contact avec cet acteur espagnol donc qu'il ne connaissait pas.
C'est Guillermo Vilela que Fernando Rey a trop tourné. C'est-à-dire que le fait qu'il ait fait autant de films, qu'il apparaisse dans autant de films, est un signe pas très encourageant. C'est-à-dire que fatalement, il a fait de très mauvais films, tourné dans de très mauvais films.
Ben, je crois que c'était aussi la situation en Espagne des années 50. Parce que à cette époque, ils ont commencé à faire les peplans, il en a fait plusieurs. Il y a un qui a une distribution qui est incroyable. Il y a une actrice russe américaine qui s'appelle Rhonda Fleming. Et il y a Serge Gainsbourg dans les films. Et par exemple, il y a un acteur qui était très respecté en Espagne qui s'appelait Rafael Rivages, qui avait joué le Don Quichotte. Et au milieu de tout ça, il y a Fernando Rey. Il a fait les derniers jours de Pompéi avec Steve Reeves. Donc, les problèmes, c'est qu'il pouvait, il n'arrivait pas à faire une carrière sérieuse. Dans La Vengeance de Bardem, il dit lui-même que le film et son rôle était ridicule. Mais je crois qu'il avait besoin de travailler, de gagner de l'argent et de continuer. Il disait aussi que en Espagne, à cette époque, c'est pas important qu'il fasse bien son travail ou pas. L'histoire s'était continuée, même si on faisait une très mauvaise prestation dans un film, personne s'en fout. Les gens, ça les intéressait pas. Il travaille, donc il va continuer à travailler.
Il y a donc pour Fernando Rey une carrière en Espagne et puis donc au Mexique, enfin, en tout cas pour un film. L'Espagne à ce moment-là, c'est la production cinématographique, alors c'est des petites comédies, des mélodrames religieux, l'exaltation de la gloire militaire et puis les espagnolades. Et il se coule finalement bien dans ce moule, dans ce modèle.
Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas un acteur comique, donc il a des rôles plutôt dans les films patriotiques et dans les films cléricaux, disons. Et dans les films Chirico, bon, il y a quelques-uns qui sont assez extraordinaires, qui ont eu un gros succès à l'époque. En particulier, un très très gros succès, c'était Notre-Dame de Fatima, hein, en espagnol Nuestra Señora de Fatima. C'était en 51, c'était bon, la guerre froide, hein, c'était l'entente également entre l'Espagne de Franco et le Portugal de Salazar. Là, c'était un film avec d'énormes moyens. Avec intervention directe de Salazar, par exemple, il y a des textes assez étonnants où on voit, et c'est sur l'apparition de la Vierge à Fatima, et évidemment avec clairement un discours anticommuniste, une grande violence, car la Vierge disait qu'il fallait se méfier, disons, de l'invasion du communisme dans le monde. Et il est très étonnant de voir un Fernando Rey, donc jeune, qui joue dans ce film le rôle d'un intellectuel mécréant, car à l'époque, bon, il était quand même, on connaissait ses origines. Dans un intellectuel mécréant qui est converti, qui se convertit lorsqu'il voit que sa femme, qui était infirme, est miraculeusement guérie. Alors on voit le miracle en direct à l'écran et le mécréant qui se convertit. C'est un film très étonnant.
Luis Buñuel, Fernando Rey, alors vous l'avez connu, vous l'avez vu jouer, vous l'avez fait jouer.
J'ai connu Fernando la première fois, ça devait être en 1958 par là. Il faisait un film avec Juan Antonio Bardem au Mexique, avec Francisco Raval et Maria Félix.
J'étais troisième assistant sur le film. Et c'est là où j'ai connu Fernando, on est devenu amis là.
Quel film, hein?
Ça s'appelait Sonatas, de Bardem. Sonatas de Valle Inclán. Ils ont tourné ça dans la jungle au Mexique. C'est un film qui se passait, la moitié se passait en Espagne et l'autre moitié au Mexique.
Alors, vous le connaissiez avant? Vous l'aviez déjà vu sans doute jouer dans des films? Ou est-ce que vous l'avez découvert sur un plateau?
Non, j'ai découvert sur un plateau au Mexique. Et après, j'ai tourné dans des autres films avec lui. Après, on se voyait ou à Madrid ou en vacances. Il allait à Ibiza, alors je voyais là aussi.
Alors, au Mexique, c'était pas le début de sa carrière, c'était le début de votre carrière, sans doute, Juan Luis Buñuel. Mais comment était-il, ce Fernando Rey, physiquement déjà?
Fernando Rey avait toujours une figure d'homme pas jeune. Il avait toujours une figure de pas de vieillard, mais d'homme déjà âgé. Et il a gardé cette même figure jusqu'à la fin. Alors, on a l'impression qu'il n'a pas changé d'âge. Moi, je l'ai connu au Mexique, il devait avoir 40 ans. Et puis jusqu'à la fin, 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, il est mort. Alors oui, il était toujours le vieux.
Bonjour, mon oncle.
Bonjour, Viridiana. Alors, l'autocar avait du retard. Tu as fait bon voyage?
Oui, mon oncle. Oh, comme c'est joli ici, comme c'est tranquille.
Oui, tu vas te croire encore au couvent. J'espère que tu vas rester longtemps.
Oh, je ne crois pas, mon oncle. On ne m'a accordé que quelques jours.
On t'a fait des difficultés?
Non. Je suis venue sur ordre de la supérieure.
Tu avais si peu envie de me voir qu'il a fallu qu'on t'en donne l'ordre.
À vrai dire, je ne voulais pas. Je ne sais pas cacher la vérité. J'ai du respect, de la gratitude pour vous. Je vous dois mes études, ma dot. À part ça, j'avoue que...
Tu n'as aucun sentiment pour moi?
Aucun.
Tu as raison. La solitude a fait de moi un égoïste. Je regrette que nous ne nous soyons pas vus plus souvent. Maintenant, c'est trop tard, pas vrai?
Oui. Oui, maintenant, c'est trop tard. Dites-moi, mon oncle, vos terres sont à l'abandon?
En 20 ans, la mauvaise herbe a tout envahi. À l'intérieur, à part le premier étage, il y a des araignées dans tous les coins. Oh, je sors si rarement.
C'est vrai, ça? Quand il sort, c'est pour m'en garder sauter.
Viens ici, mon petit.
Qui est-ce?
C'est la fille de Ramona, ma servante.
Viens!
Laisse-la, c'est une vraie petite sauvage. Comme tu ressembles à ta tante. Tu as la même démarche qu'elle.
Je le sais, mon oncle, vous me l'avez déjà dit.
Et tu as la même voix.
Rencontre Emmanuel Larraz entre Luis Buñuel et Fernando Rey. Alors, Luis Buñuel le voit dans un film que Fernando Rey a tourné au Mexique. Et il lui propose tout de suite le grand rôle, enfin le rôle principal de Viridiana.
Oui, il faut bien voir qu'à l'époque, on ne savait pas que Viridiana aurait un succès mondial. Il s'agissait, Buñuel avait des ambitions très modestes. En fait, Buñuel est au Mexique, il était réfugié lui aussi. Mais il avait envie de retourner en Espagne, dont il avait déjà proposé un scénario, et c'est le scénario de Nazarín, hein, à partir de l'adaptation d'un roman espagnol de Benito Pérez Galdós. Mais finalement, ce scénario n'est pas accepté par la censure franquiste, donc il doit le tourner au Mexique en 1958. Il est intéressant de savoir qu'à ce moment, Buñuel fait tourner déjà un acteur espagnol, c'est Paco Rabal, Francisco Rabal. Et dans Viridiana, justement, on va retrouver ces deux acteurs espagnols, Fernando Rey et Francisco Rabal. Fernando Rey dans le rôle du vieil Hidalgo, déjà, du solitaire, d'un homme sceptique. Ça aussi, c'est lui-même, d'ailleurs. Fernando Rey se présentait lui-même comme quelqu'un de sceptique, comme quelqu'un qui avait été brisé, en quelque sorte, par la guerre civile. Et c'est quelque chose qui revenait constamment dans les interviews qu'il donnait, qu'il accordait, en particulier à la télévision espagnole, car dans les dernières années, disons, ces vieux acteurs et les vieux films ont été redécouverts par les jeunes générations en Espagne. Donc les gens ont redécouvert Fernando Rey, et il insistait beaucoup vraiment sur le traumatisme que ça avait été pour lui. Il disait donc qu'il avait comme ça un air un petit peu désabusé, il était très sceptique, voilà. C'est le mot qui revenait souvent dans sa bouche.
Alors on pourrait peut-être, Emmanuel Larraz, raconter un petit peu le scénario de Viridiana, d'écrire le rôle de Fernando Rey, et de savoir ce que Luis Buñuel demandait à Fernando Rey. Et puis ensuite, évoquer sans doute le succès mondial du film et puis le scandale, au moins à Madrid.
Oui, là, on a des déclarations. Fernando Rey a bien dit qu'au début, il ne comprenait pas ce qu'il faisait, ce qu'il devait faire, et que Buñuel avait adopté cette méthode de tournage. Il ne lui disait pas vraiment, disons, ce qu'il attendait vraiment de lui, mais il lui donnait des indications très précises que Fernando Rey suivait à la lettre. Et dans Billy Diane, il joue le rôle qui ensuite va un peu lui coller à la peau, comme j'ai dit, le rôle d'un homme déjà âgé, d'un hidalgo, de quelqu'un qui ne travaille pas, qui vit sur ses terres, qui s'est retiré. Et dans le cas de Billy Diane, le scénario avait été écrit avec un vieil ami de Buñuel, un Espagnol également exilé, qui s'appelait Julio Alejandro, qui vient de mourir, là, il y a, disons, en septembre. Il vient de mourir, très âgé, en Espagne. Et donc, c'était un film très curieux. Le scénario était extrêmement curieux. Et il avait été présenté à la censure franquiste. Et il avait été modifié par la censure. Ça, c'est assez extraordinaire. Et bon, j'ai par exemple, vu les dossiers de censure, puisqu'en Espagne, actuellement, il y a une très, très grande liberté d'accès aux archives. Et on peut voir qu'il y a des modifications, des anecdotes extrêmement réjouissantes, puisque en particulier à la fin du film, donc, c'est une novice qui, avant de rentrer dans les ordres, va rendre visite à son vieil oncle qui a payé son séjour au couvent. Et la visite de cette novice réveille chez ce vieil homme le désir qu'elle ressemble à sa femme qui était morte en la nuit de noces. Bon, voilà, c'était un scénario extrêmement étonnant. Mais Buñuel avait présenté le scénario à la censure franquiste, qui avait demandé la modification de quelques détails, en fait.
Dans le film, à la fin, parce que le jeune homme séduit la bonne. Et la fin du film, il est avec la bonne, ils sont ensemble dans sa chambre à coucher. Et Viridiana a finalement décidé de se donner à lui physiquement. Alors elle vient frapper à la porte, il ouvre la porte, il voit que c'est elle, il dit à un moment, il fait sortir la bonne par une autre porte et il fait rentrer Viridiana pour qu'il devienne sa maîtresse. La censure a dit, Espagnol, c'est horrible, il prend une femme, il jette une autre, ça, c'est pas possible. Et mon père a dit, bon, si, à la fin, on laissait toutes les portes ouvertes, Viridiana arrive et tous les trois se mettent à une table et commencent à jouer aux cartes. Et le jeune homme, Raval, dit, Viridiana, je savais que j'allais finir à jouer aux cartes avec toi. Et la censure, ah bon, très bien, les portes sont ouvertes, il y a de la musique qui joue, tous les trois, c'est tout à fait moral. Finalement, c'est beaucoup pire, ça devient un ménage à trois, mais là, la censure, comme ils étaient un peu idiots, comme tout censeur.
Et évidemment, ensuite, ça a été après le gros scandale qu'il y a eu à Cannes, lorsque ce film a été présenté en tant que production espagnole. Donc, il a été présenté le dernier jour et il a remporté la Palme d'Or. Mais ensuite, il y a eu la critique, disons, des défenseurs cléricaux qui pensaient que c'était un scandale, qui faisaient une lecture qui finalement, après, le film a été interdit pendant un an dans le monde entier car il y avait un problème de droit. C'est une coproduction avec le producteur mexicain, Alatriste, et puis les producteurs espagnols. Et finalement bon, on a pu le voir, évidemment, en France, mais en Espagne, il a été interdit jusqu'après la mort de Franco. C'est vraiment extraordinaire aussi, jusqu'en 1977. Et ça a été une décision qui a été prise 2 ans après la mort de Franco, le même jour. On a, disons, reconnu l'existence légale du Parti communiste espagnol, qui avait été interdit jusque-là, et on a autorisé la projection de Billy Diane.
Attends.
Je te demande de rester, Ramona, reste. Je veux m'en aller, il faut que je parte.
Maintenant, tu ne peux plus t'en aller.
Hier soir, vous aviez promis de ne plus jamais me parler de ça. Laissez-moi, je vous en supplie.
Il n'existe pas deux êtres plus proches l'un de l'autre qu'un homme qui vit retiré du monde. Et une fille qui consacre sa vie à Dieu.
Oh, laissez-moi, mon oncle, taisez-vous. Allez-vous-en, je voudrais m'en aller.
Pour toi, j'ai tout oublié, jusqu'à ce souvenir qui était ma raison de vivre.
Partez, allez-vous-en d'ici.
Je ne sais pas ce qui m'a pris.
J'ai eu la folie de croire que tu accepterais de devenir ma femme, mais toi, tu as refusé. Puis, comme le jour de ton départ arrivait, j'ai dû forcer ta volonté. C'était la seule façon de te serrer dans mes bras.
Oh, ce ne sont que des mensonges.
Non, c'est la vérité. Cette nuit, pendant que tu dormais, tu as été à moi. Tu ne pourras plus retourner au couvent, car tu n'es plus la même qu'avant. Désormais, il va falloir que tu vives avec moi. Tout ce que je possède sera pour toi. Et si tu refuses de m'épouser, si tu préfères vivre comme une étrangère, ça ne fait rien si tu restes près de moi. Je l'accepterai. Veux-tu réfléchir? Rien ne presse.
Oh, laissez-moi. Je veux m'en aller.
Bon, il apparaît comme un personnage qui est relativement malade psychologiquement, donc il s'est enfermé dans la solitude après la mort de son épouse, le soir de la nuit de noces. Il vit à l'écart du monde et on voit en effet, c'est un voyeur, car il y a la servante avec sa petite fille. On voit que c'est un personnage qui donc a installé des rites, par exemple il donne une corde à sauter. Et son plaisir est de regarder la petite fille sauter la corde. Et le dialogue de ce film de Billy Ian est extrêmement soigné, en particulier le verbe revoir, le regard. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui c'est un fétichiste également. Il y a une scène remarquable où, pendant la nuit, il est en train de revêtir les vêtements de sa femme morte pendant la nuit de noces. Non, c'est un personnage qui est à la limite, disons, de la folie et qui s'est vraiment enfermé dans sa solitude. Et je répète, non, c'est lorsque cette jeune fille vient lui rendre visite qu'elle réveille. Elle réveille son désir et il lui demande, dans une scène extraordinaire, il n'ose pas le faire lui-même, il fait que la servante lui demande si elle ne veut pas l'épouser pour qu'elle ne quitte pas la maison.
Alors, Fernando Rey, comment joue-t-il dans ce film de Luis Buñuel? Est-ce que c'est toujours le même personnage, en fait, ou est-ce que quand même la rencontre avec un très grand metteur en scène transforme son jeu?
Eh bien, lui, il a dit dans Je... Donc il s'était remis entre les mains, c'est l'expression qu'il emploie, donc il se laissait diriger par Buñuel. Souvent il ne comprenait pas, enfin c'est ce qu'il a dit en tout cas, il ne voyait pas exactement où voulait en venir Buñuel. Ça aussi c'est c'est l'expression de sa modestie. Il a toujours, par exemple, Fernando Rey a toujours dit que tout le mérite revenait à Buñuel. Bon, il est certain qu'il y avait sûrement une part de mérite qui lui revenait. Donc c'est Buñuel qui a modelé ce personnage d'une certaine élégance quand même. Je répète, quelqu'un qui ne travaillait pas, qui était noble, sceptique également. Et ensuite, c'est vraiment dans Tristan. C'est dans Tristan, c'est son rôle vraiment le plus accompli, le plus abouti. Du moins, c'est ce que pensait Fernando Rey lui-même.
Tristan, je suis un vieux limier. Je sais que quand une fille de ton âge s'en va courir les rues tous les jours, c'est parce qu'elle a une aventure. J'ignore encore de quel genre d'aventure il s'agit. Mais dis la vérité si tu tiens à la vie.
Qu'est-ce que tu veux? Que je mente?
Piètre défense, il faut que je sache toute la vérité. Je suppose que jusqu'à présent, il ne s'agit que de jeux innocents. Et qu'il ne s'agit que de cela. Bon, écoute-moi bien. Jamais personne n'a osé me tenir tête. Et si ce que je viens de te dire te déplaît, c'est comme père que j'exige des comptes de tes actes. Ta mère t'a confié à moi. Et je t'assure que je suis décidé à défendre ton honneur.
Tu viens me parler d'honneur, toi? Mais c'est toi qui me l'as enlevé, tu m'as perdu. Si ma mère revenait, qu'elle voyait ce que tu as fait de sa fille.
Tu crois peut-être que seul au monde ou dans d'autres mains que les miennes, ton sort n'aurait pas été pire?
Hypocrite.
Enfin, tu sais bien que je ne peux pas te traiter comme les autres femmes que j'ai connues. Laisse-moi faire avec toi ce que je n'ai fait avec aucune autre. Laisse-moi te traiter comme un être chéri, comme un être de mon propre sang. Quoi? Tu ne me crois pas?
Non, je ne te crois pas. Je suis fatiguée de t'entendre répéter toujours la même chose.
J'ai eu du tort, je me suis mal conduit avec toi, mais j'ai envie de me racheter. Alors Tristana, écoute-moi. Je ne tiens pas à jouer les jaloux de comédie ni les tyrans domestiques dont je connais les ridicules mieux que quiconque. Je ne veux pas t'interdire de sortir, mais je n'aime pas te voir sortir. Je te l'ai dit.
Jean-Claude Carrière, Fernando Rey a été votre ami. Vous l'avez peut-être vu au cinéma, dans des films, avant de le rencontrer dans la vie. Alors quelle a été votre réaction quand vous avez tout de suite vu un très bon acteur, un très grand acteur?
Le seul film où je l'avais vu avant de le rencontrer, c'était Viridiana de Buñuel, qu'il a tourné en 60. Et quand je l'ai rencontré, j'ai été surpris de le voir si jeune, parce que dans Viridiana, il s'était vieilli. Mais on le reconnaissait parfaitement, et tout de suite, on était frappé par son charme, par sa culture. C'était un acteur très cultivé. Il y a une véritable culture des acteurs. Par exemple, sa connaissance du théâtre espagnol et de la poésie espagnole, qui était très grande. Il a été un de ceux qui m'ont initié à la langue espagnole, à la culture espagnole. Et également, on était frappé par sa voix. Et ça, je n'étais pas le seul. Par exemple, je peux témoigner que dans les années 60 et 70, à Mexico, les Espagnols en exil, les Espagnols républicains qui étaient encore en exil au Mexique, allaient voir les films espagnols avec Fernando Rey uniquement pour entendre bien parler castillan. Para oír el castellano. Ça, c'était pour eux le charme d'aller dans une salle de cinéma, voir le film 10, 15 fois, ils le connaissaient par cœur, uniquement pour entendre la voix de Fernando Rey. Ça, c'était, je crois, un très bel hommage qu'on pouvait lui rendre, puisque par sa voix seule, il évoquait un pays perdu.
Además, me da cierta vergüenza decirte quiero a estas alturas. Ya lo saben todos los cómicos.
¿Diste una conferencia?
Peor. He escrito tu nombre en los camerinos de todos los teatros de España.
No se debe escribir en las paredes. Además, no sirve para nada. Tienes que decírmelo.
Bueno. Te quiero.
Y yo a ti, Miguel.
C'est difficile à imiter sa voix. Il avait une voix assez profonde et très chaleureuse. Et il aimait bien parler de temps en temps en anglais, en accentuant certains accents anglais, en forçant. Il aimait bien rire, mais c'était... Il riait d'une façon toujours très... C'était son rire un peu. Et il avait une voix très, très inconfondable. On ne pouvait pas le confondre avec quelqu'un d'autre. C'est une voix très de Fernando.
¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanca cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mostrales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel.
Entre 1960, Viridiana, et 1970, Tristania, il y a quand même une production pour Fernando Rey. Enfin, il travaille. Donc, est-ce qu'il a profité du scandale, enfin, du succès international, mais non madrilène, de Viridiana pour s'échapper d'Espagne et aller tourner ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, il est resté en Espagne attendant d'autres tournages?
Non, il a tourné ailleurs, mais dans des films qui n'ont pas beaucoup marqué, hein, qui n'ont pas beaucoup marqué. Il a toujours dit qu'en effet, c'est Viridiana qui lui avait ensuite permis d'être connu à l'étranger, mais ça a mis un certain temps, en effet. C'est à partir de Tristan, en fait, qu'il a eu sa projection internationale. Donc là, il tourne dans des films, commerciaux, disons, hein, pour gagner sa vie. Il a fait quelque chose de remarquable aussi. Il a fait, à la radio, il a travaillé toujours sur sa voix. Il a fait une lecture intégrale du Quichotte. Je pense que c'est en 66, si je me souviens. Oui, c'est vraiment remarquable, cela. Car, bon, c'était, je répète, c'est vraiment sa voix, au départ. Et à partir de Viridiana, il a gardé, en effet, ce physique d'un monsieur, disons, cinquantenaire, c'est ça, disons, hein, élégant, avec cette barbe qui lui allait si bien. Il est certain que Il était plus élégant, probablement plus séduisant avec la barbe que sans la barbe.
Ne bouge pas. Lève les mains. Llevas armas. En effet, tu es mieux faite pour l'amour que pour jouer à la guerre. Vamos, muchacha. Vamos. Tu me prends pour un salaud. Je serais même socialiste. Si les socialistes croyaient en Dieu. Quel âge as-tu? 'Toi et tes amis, vous n'avez aucune chance. La violence ne mène à rien. Je le dis toujours. Tu es une bonne petite ménagère. Voilà du pain, de la laitue, la clé des songes. Caramba! Un homme averti en vaut deux. Tu n'es pas d'accord? Un peu de champagne? Tu as des petits frères? Dans le fond, nous avons les mêmes idées. La bombe et la pollution, par exemple. Tu es contre? Eh bien, moi aussi. Et tu es pour l'amour libre? Moi aussi.
Vous n'avez pas le droit de me toucher.
Non, 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 je ne suis pas d'accord. Si Mao a dit ça, ça veut dire qu'il n'a pas compris, Fred. Et en définitive, si on réfléchit bien, la seule solution au problème de la famine et de la misère, c'est la solution militaire. Tu en feras l'expérience, Miranda, quand tu seras obligé d'ouvrir tes jolies cuisses à tout un bataillon d'infanterie. Tu n'es pas d'accord? Et maintenant, le tien a sûrement des balles. Puisque tu es venu pour me tuer, je pourrais facilement me débarrasser de toi. Légitime défense. Mais je vais te montrer que je peux être généreux. La porte est ouverte. Va-t'en. Va-t'en. J'arrête pas ce soir. Il faut que je me prépare. Va-t'en.
Quand j'ai connu Fernando dans les années 63-64 à Madrid, il était déjà un acteur extrêmement célèbre, et il représentait, comme il n'a cessé de le faire jusqu'à la fin de sa vie, une certaine image de l'Hidalgo, du grand d'Espagne. Alors, c'était un grand d'Espagne républicain, il a toujours eu les mêmes idées que son père et que Buñuel et que pratiquement tous les Espagnols que je fréquentais à cette époque-là sous le franquisme, Francisco Rabal, etc., tous les autres acteurs et amis, le docteur Barros qui était au centre de ce groupe, José Bergamín et tous les autres. Mais dire que sa naissance, son enfance, son éducation ont influé sur son jeu, ça je ne saurais le dire. Il était naturellement distingué, d'une distinction qui lui attirait quelquefois les sarcasmes de Buñuel, lequel prétendait que c'était très facile d'être distingué. Il suffisait d'une petite moustache d'un bon tailleur. Par exemple, quand Fernando a fait French Connection, le film dans lequel il jouait un chef de gang qui, vous vous rappelez, allait à New York, marcher dans les rues, déambuler. Je me souviens très bien de Luis Limitant. Il vous dit, voici comment il faut jouer un chef de gang distingué, disait Buñuel. Alors, tu rentres dans un restaurant, tu t'assieds, et voici comment il faut manger des escargots. Il disait, personne ne sait manger des escargots comme Fernando. Alors, il y avait toujours entre eux ce jeu subtil de moquerie réciproque. Buñuel aimait beaucoup blaguer Fernando sur son aspect grande vedette et le fait qu'il faisait de la publicité en Espagne. Par exemple, une blague que je peux raconter qui est tout à fait innocente mais qui a très très bien marché, c'est qu'un jour pendant le tournage de Tristana, où j'étais allé sur le tournage à Tolède, ils sont tous les deux assis sur le Zocalo, un café, ils prennent un apéritif avec quelques olives, c'est en plein jour, et tout à coup arrive un jeune homme qui s'adresse, qui vient directement vers eux, ignore Fernando, s'adresse directement à Buñuel, et lui dit « Vous êtes bien Monsieur Buñuel ?»« Oui, dit Buñuel, un peu surpris. « Et vous voulez me signer un autographe, s'il vous plaît ?» Alors Buñuel signe un autographe et le jeune homme s'en va, sans un regard pour Fernando. Et puis, 30 secondes après, arrive une jeune fille, la même chose. Elle dit « Vous êtes bien Monsieur Buñuel ?»« Oui, oui, vous pouvez me signer un autographe, etc. » À la troisième ou quatrième fois, Fernando a éclaté de rire et a compris que c'était une blague que Buñuel lui avait faite, lui avait montée, en soudoyant toute une classe d'un lycée pour qu'on vienne lui demander des autographes à lui, mais avec l'obligation d'ignorer totalement la grande vedette.
Cette grande vedette, donc Fernando Rey, est-ce que vous avez écrit, est-ce que vous avez l'impression, Jean-Claude Carrière, d'avoir écrit pour elle? Est-ce que vous avez écrit pour Fernando Rey ou vous avez écrit simplement parce que Buñuel?
Peut-être le dernier film, cette obscure. Moi, je n'ai travaillé que trois fois avec Fernando, deux fois avec Buñuel dans Le Charme discret de la bourgeoisie et dans Cet obscur objet du désir, et une fois dans un téléfilm que nous avons fait ici avec Bernard Allaire qui s'appelait Le Bouffon, dans lequel Fernando jouait un personnage d'un homme très très riche, d'un milliardaire omnipuissant, un film de Guy Jauret. Et dans les trois fois, il était assez fidèle à son personnage, mais avec des nuances. Je crois que si je rajoute aux deux films de Buñuel que j'ai cités, Tristana, que je n'ai pas écrit, je crois que Buñuel, d'une certaine manière, se servait de lui comme d'un étrange miroir. Il lui faisait dire des choses, surtout dans Cet obscur objet du désir, qui auraient pu être dites par Buñuel lui-même. Il y a deux ou trois scènes dans le film où le personnage part de lui-même, de son amour, de son vieillissement, des années qui passent, de ce qu'il adviendra, de cette passion qu'il éprouve pour cette jeune femme, qui sont des sentiments que j'ai connus chez Buñuel. Et là, nous savions déjà que Fernando jouerait le rôle. Nous ne le savions pas pour Le Charme discret de la bourgeoisie encore. Donc évidemment, connaissant bien l'acteur, c'est comme toujours, connaissant bien ses possibilités, sous son apparence d'élégance et de distinction, connaissant aussi ses secrets, voire ses abîmes qu'il avait, comme tout personnage riche, nous avons naturellement, certainement, écrit pour lui. Buñuel sentait en lui, j'ai l'impression, là je m'avance un peu, mais Buñuel sentait en lui, sous la façade noble, élégante et très composée qu'il pouvait avoir, il sentait une inquiétude. Il sentait un trouble constant, trouble qui se manifestait quelquefois dans la vie de Fernando par sa crainte des maladies. Il était à la limite de l'hypocondrie par moment. Je me rappelle très bien, il prenait des petites pilules comme ça avant de se mettre à table, et toujours il disait à Buñuel, qui le regardait d'un air très sévère dans ces cas-là, il disait, c'est pas des remèdes, hein, c'est pas des remèdes, c'est pas des médicaments. Alors, il y avait, oui, comme en tout être humain, je crois, et comme dans tout personnage intéressant, il y avait des failles. Alors c'était dans ces failles que Buñuel a parfaitement indiqué dès Viridiana, dès le premier film qu'ils ont fait ensemble, qu'il aimait et s'engouffrait. De ce point de vue, certainement le moment le plus passionnant de leur rapport, en tout cas de ceux auxquels j'ai assisté, fut pendant le tournage du Charme discret de la bourgeoisie, dans la scène finale. Dans la scène finale, les invités, les gens qui doivent manger ensemble, les amis, sont enfin regroupés dans une salle à manger. Ils vont enfin pouvoir manger quand arrive une bande de tueurs qui les mitraille. Et le dernier à mourir est Fernando, si on se souvient. Alors, parce qu'il s'est caché sous la table. Il s'est caché sous la table et il y a un plan célèbre de lui où sa main sort de la table et vient à tâtons sur la table chercher un morceau de viande. Alors un des tueurs s'approche, soulève la nappe et on rencontre à ce moment-là le visage de Fernando en train de manger, enfin à deux doigts de la mort, en train de manger à la main, lui si distingué, cette viande saignante, avec quelque chose d'un peu déréglé dans le regard. Alors pour obtenir ce regard, pour obtenir ce plan-là, Buñuel a passé une heure et demie avec lui sous la nappe. C'est-à-dire qu'il sait, comme il le faisait quelquefois, quand un acteur avait une difficulté à aller jusqu'au bout de quelque chose, Buñuel le prenait en tête à tête, faisait sortir tout le monde et restait avec lui jusqu'à un état, quelquefois, de quasi-hypnose. L'hypnose était un exercice que Buñuel avait pratiqué, et pratiqué souvent. Donc là, il est allé se mettre sous la table avec lui, il lui a parlé en espagnol pendant un bon moment, une heure et demie, j'exagère un peu, mais trois quarts d'heure ou une heure, certainement. Et ensuite, quand Buñuel est ressorti de la table en laissant Fernando sous la nappe, en attendant que l'autre acteur souleva cette nappe pour nous révéler le regard de l'acteur, là il s'est passé quelque chose d'étrange, parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qui va nous apparaître? Comment il va faire? Quel va être son œil? Quel œil va-t-il nous donner, comme on dit? Ça, c'est certainement un de ces moments très rares dans la vie d'un comédien, dont il parlait d'ailleurs après, de ce moment-là, et de ses rapports avec un metteur en scène très fort, où quelque chose s'est passé, où le metteur en scène a réussi à faire aller l'acteur jusque peut-être même au-delà de lui-même.
Mais qui est-ce?
Cette fille est de Miranda.
De Miranda?
Oui. Elle appartient à une bande de terroristes. Il y a longtemps qu'elle me poursuit.
Dans quel but?
Comment dans quel but? Pour me séquestrer, pour m'assassiner. Comment savoir avec des terroristes?
Tu as prévenu la police?
Pour le moment, je n'y tiens pas.
Non, merci.
Vous comprenez sans doute pourquoi. J'oubliais de vous dire, j'ai eu de ces nuits à l'aéroport. Ils voulaient fouiller ma valise diplomatique. J'ai dû appeler les ministres.
Fouiller la valise diplomatique, mais c'est impensable.
Oui. Bon, il y a un mois, on a arrêté l'ambassadeur de... Un ambassadeur avec 40 kilos de cocaïne.
Un ambassadeur? Quel ambassadeur?
On a totalement étouffé cette affaire. Il y en a 15 kilos. La presse n'en a pas. C'était l'ambassadeur des États-Unis.
L'ambassadeur des États-Unis?
Oui.
Mais alors c'est le quatrième ambassadeur qu'on arrête? Maintenant ils vont se méfier, il faudra trouver une autre combine.
Vous voulez faire les tests?
Le Harrison Schrader?
Oui.
C'est le meilleur.
J'ai un échantillon. Venez. Dans ta main.
Pierre Grimblat, en plus du producteur Hamster Productions, vous êtes aussi réalisateur et vous avez réalisé il y a 21 ans, un très beau film qui s'appelait Dites-le avec des fleurs, dans lequel on retrouvait Fernando Rey. Alors c'était un vieil ami à vous, c'était un comédien que vous aviez envie de faire travailler depuis longtemps, ou au contraire c'est une découverte, en tout cas une découverte personnelle?
Non, je connaissais bien Fernando parce que nous avions des tas d'amis communs, mais j'avais jamais travaillé avec lui. Et quand j'ai adapté avec Tonino Guerra, qui est le scénariste de Fellini et de Antonioni, Dites-le avec des fleurs, le roman de Christian Charrière, j'ai tout de suite pensé à l'écrire pour Fernando. Alors d'abord, je suis allé le voir à Madrid, et je lui ai raconté l'histoire, et il m'a emmené dans le restaurant où il allait m'emmener bien des fois par la suite, un restaurant du Vieux Madrid, dont la spécialité était le cochon de lait rôti. Et ensuite, nous terminions par une spécialité de sa ville natale, la Coruña. C'était queso con membrillo. C'est du fromage et de la gelée de coing. Et c'est formidable.
Et ensuite, alors ce jour-là, vous l'avez décidé tout de suite à tourner pour vous?
Oui, parce que ce qui l'intéressait, c'était de jouer dans ce film un amnésique, dont le passé lui revenait à travers des évocations de la vie d'Hitler. C'est, dans Hitler avec des fleurs, un égyptologue qui travaille sur Amenophis IV, Akhenaton, qui était le pharaon qui a combattu l'influence des grands prêtres. Et Amenophis IV, pour lui, lorsqu'il travaillait dans sa chambre, ça se mélangeait à des flashs qu'il avait de la vie d'Hitler, qui sortaient du passé enfoui au fond de sa mémoire. Et nous découvrirons plus tard dans le film qu'il était en effet un ancien officier de l'armée allemande pendant la guerre. Et lorsqu'il s'est agi de montrer qu'il avait été dans sa jeunesse, celle qu'il avait oubliée, j'ai eu l'idée de le faire jouer par un garçon qui n'était pas du tout un acteur, qui ne l'est pas encore aujourd'hui, et qui est Frédéric Mitterrand. C'est Frédéric Mitterrand qui joue dans Dites-le avec des fleurs, Fernando Rey jeune.
Fernando Rey lit le scénario que vous avez donc écrit pour lui, le scénario de Dites-le avec des fleurs, Pierre Grimblat. Et alors, comment se passe la préparation du tournage? Est-ce que, par exemple, il s'intéresse au costume? Est-ce qu'il s'intéresse ensuite à la lumière, à la position qu'il aura dans le plan? Enfin, est-ce que c'était un comédien qui parlait, qui discutait, qui dialoguait beaucoup avec son réalisateur?
D'abord, il y avait un élément pour lui de reconnaissance très précis, c'est que sa partenaire était Delphine Seyrig, avec qui il venait de faire La Bourgeoisie. Et donc Delphine et lui, le troisième acteur principal étant Francis Blanche, qu'il connaissait aussi très bien. Donc Fernando, sur le plateau, est un très très vieux routier, et entre chaque plan, il se trouvait un endroit sur le plateau pour s'endormir. Et j'étais absolument terrifié en me disant, mais ça va être affreux quand je vais dire moteur, c'est Fernando, je vais avoir un type bâillant, les yeux mi-clos, pas du tout. Dès qu'il entrait en action, il reprenait possession de son personnage, et ça devenait le grand Fernando Rey, dont, et c'est rare sur un tournage, les scènes avec Delphine ont souvent été applaudies par l'équipe sur le plateau.
C'est lui qui avait choisi ses costumes, par exemple?
Oui. Il m'avait dit, écoute, pour les costumes, ça n'est pas très difficile. Je t'emmène chez, et là, c'est le nom du grand costumier du cinéma à Madrid. Et là, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour moi. Il m'a emmené là-bas. C'est un immeuble de 7 étages. Eh bien, il y avait un étage entier occupé par les films, par les costumes que Fernando a portés dans, je ne sais pas, il avait fait 100 ou 150 films à l'époque. Il y avait les 150 garde-robes des films qu'il avait fait, et il m'a dit « Choisis ». Et voilà comment nous avons habillé Fernando Rey pour « Dites-le avec des fleurs ». Il avait une collection de chapeaux qu'il portait à la cavalière, c'est-à-dire incliné sur l'œil, qui était absolument extraordinaire. Et dans Dites-le avec des fleurs, je me souviens que j'en ai choisi 3, des chapeaux en tissu, avec des dessins différents, qui donnaient à cet amnésique un côté chevalier perdu. Fernando, c'était un humour quasiment ininterrompu dans la vie. Et c'était en même temps un humour de type qui avait tout vécu à travers ses films. C'était très étonnant de voir les citations qu'il faisait de tel dialogue, scène qu'il avait eu avec Buñuel.
Il faisait des citations comme ça.
Oui, 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 il était... En fait, je me demande ce qu'il faisait quand il ne tournait pas, parce que j'ai eu beaucoup de mal à caser le tournage de Dites-le avec des fleurs dans sa vie professionnelle. Il était toujours, toujours, toujours pris avec 2 ou 3 films qui l'attendaient après le mien.
Il faut que je te parle. C'est à propos des vieillards et aussi à propos d'Ursula. Il faut absolument qu'elle s'en aille. Elle est d'accord avec ces gens affreux. Elle leur parle. Elle les voit en secret. On me l'a dit.
Qui te l'a dit?
Tu sais qu'elle est entrée dans ma chambre hier en me volant ma clé.
C'était pour jouer du piano. Tu t'en sers pas. Et il y avait Jean-Claude avec elle. Ils ont bien fait.
Jean-Claude, parlons-en. Je les ai surpris en train de...
En train de quoi?
En train de rire. Il faut qu'elle s'en aille, je te le demande.
Non, elle restera. Les enfants l'adorent. Sans compter que si elle partait, il nous faudrait lui trouver une remplaçante. On a assez de problèmes. Et puis, elle a été très bien quand Juliette s'est occupée de tout.
Il est pour moi définitivement un acteur surréaliste. C'est-à-dire qu'à la réalité d'un personnage, il apporte ce subtil décalage qui fait que sa présence n'est pas seulement celle qu'elle devrait être. Il y a cette petite chose en plus.
Il a eu la chance aussi. Et il avait du charisme. Énormément de charisme. Et ça a énormément fonctionné. C'était un... Je crois que tout le monde l'a appelé un seigneur. Mais je crois que c'est vrai. De par son aspect physique, déjà, il portait beau, comme on dit en français. C'était un très bel homme, très distingué, très raffiné, très cultivé. Il y avait que des superlatifs pour lui, finalement. C'est un peu beaucoup, mais c'est comme ça.
Des fois, évidemment, des fois, il arrive à être pitoyable, comme dans cet obscur objet du désir, qui est dans ses grands rôles aussi. Hein, ça, c'est le dernier film de Buñuel, le dernier film donc avec Buñuel, où c'est vraiment ce rôle de l'homme. Là, c'est un des grands thèmes de Buñuel, l'homme qui ne comprend rien à la femme. Et vous savez que c'est une adaptation de La femme et le pantin, donc ce film génial de Buñuel. Et là aussi, Fernando Rey joue dans le rôle de quelqu'un élégant, très grand seigneur, mais qui précisément perd toute sa superbe lorsqu'il est en face de Conchita, qui se moque de lui, qui l'humilie. Et bon, c'est vraiment également un des très très grands rôles de Fernando Rey. Il y a également le grand film avec Carlos Saura, Elisa vida mia, Elisa mon amour, qui lui a valu le premier prix d'interprétation à Cannes, en 1977. Et là, vous voyez, il reprend le personnage d'un homme, un intellectuel, qui s'est isolé dans la campagne, qui s'identifie à une certaine Espagne mélancolique, des gens qui ont été brisés. Il y a un jeu avec le paysage de la Castille, il y a de la réminiscence du poète Antonio Machado. Donc il y a disons, une constante, disons, jouée des gens vieux. Hein, et ça, Fernando Rey disait que pour, dans le cas du Don Lope de Tristan, il disait que le personnage de Don Lope, disait-il, m'a troublé viscéralement. Il disait que lorsqu'il avait terminé ce film, il était relativement jeune encore, en effet, il avait 53 ans, et que c'était comme si le personnage avait déposé en lui une certaine couche de vieillesse. Vous voyez, car évidemment à la fin du film, le personnage se dégrade dans Tristan. Donc je pense que c'est vraiment ces quatre grands rôles dans les films qu'on a vus en France ou qu'on verra dans le cas du Quichotte. Ça serait dans Billy Diane, Tristan, Elisa, mon amour de Carlos Saura, et puis alors cette dernière super production, Le Quichotte, qui va vraiment marquer pour des années, je pense. Il a fixé là une interprétation du Quichotte tout à fait admirable.
Festival de Cannes 1977, Fernando Rey obtient le prix d'interprétation.
Dans ce cas, me manque Géraldine et Carlos Saura, parce que c'était un film très sodé entre nous. Et j'ai le prix, je suis content pour moi-même, mais j'aurais bien voulu avoir un prix pour le film aussi.
Un mot sur votre rôle dans le film de Carlos Saura, Elisa vida mia.
Vous savez, pour un acteur, c'est très difficile d'expliquer un rôle. Si vous posez la même question à un peintre, dire qu'est-ce que vous voulez dire avec votre tableau, c'est difficile. Pour moi, c'est la même chose. Je suis le père et je trouve ma fille que je n'ai pas vue depuis 20 ans et on parle. C'est un fil de conversation.
Vous faites du cinéma depuis combien d'années?
Au moins 30 ans, oui.
Combien de films?
Je ne sais pas. Plus de 100.
Et vous avez tourné avec beaucoup de réalisateurs dans le monde entier.
Oui, Orson Welles, Friedkin, Carol Reed, Buñuel, Fellini, Zeffirelli, Rossi, Carlos Saura.
Une chose de Fernando qui était très importante, c'est qu'il avait une grande mémoire. Et il se mettait 5 minutes avant. Bon, il travaillait bien le rôle avant. On discutait toujours ce qu'on allait faire, le personnage. Et une fois qu'on avait parlé de ça, après on parlait plus.
Et lui, il avait cette grande mémoire. Il disait toujours, je peux apprendre un texte. Mais deux minutes après qu'on a tourné la scène, il l'oubliait. Ce qui est formidable pour un acteur, parce que ça, tous ces mots en plus, ça n'encombre pas. Et puis aussi, c'était un homme très tranquille, très drôle. Un homme qui surtout, c'était vraiment ce qu'on peut dire, la bête du cinéma ou du théâtre. Il aimait bien être sur un plateau. Et même quand il pouvait partir, il aimait mieux rester, discuter avec les maquilleurs, avec les techniciens. C'était un monsieur qui aimait bien être là. Le vrai professionnel, mais je crois qu'il devait s'ennuyer chez lui. Il aimait être sur le plateau. Et il pouvait passer des heures et des heures. Mais Fernando, tu vas pas tourner pour de te sans faire rien. Et puis il restait là, il s'assied, il discutait, il allait prendre un café.
Juan Luis Buñuel, vous avez vu travailler Fernando Rey sur le plateau pour les films de votre père, Luis Buñuel, mais vous l'avez aussi employé. C'était dans un film... La femme aux bottes rouges, qui date de quelle année?
Ça fait de 73 ou 74. Et là, j'ai pris Fernando parce que... Bon, disons que j'ai écrit le rôle pour lui et pour Catherine. C'était une coproduction, j'avais besoin d'une Française et puis un Espagnol. Et puis alors, c'est l'histoire d'un homme qui est les créateurs, un homme immensement riche. Et il déteste la poésie, l'art, il trouve ça... Et il dédie sa vie et tout son argent à empêcher ces gens à créer. Par exemple, il pourrait les faire tuer, mais ça c'est tricher, c'est trop simple. Et son idée, s'il trouve un très bon sculpteur qui a une tendance vers l'alcool, alors il achète les meilleurs vins, les meilleurs alcools, et le type devient alcoolique et il ne peut plus créer. Et le film commence avec Fernando qui va dans une galerie d'art, et là, il propose, quand il voit de l'art très, très beau, il s'évanouit. Alors son chauffeur met un mouchoir sur ses yeux, l'enlève, le met dans la Cadillac qu'il attend dehors et offre d'acheter toutes les peintures de ce jeune peintre qui est magnifique pour les prochains 30 années, en payant très cher. Qu'est-ce qui va se passer? Ce jeune peintre va peindre et peindre et peindre, mais jamais personne va voir son art. Il va avoir beaucoup d'argent et peu à peu, il va laisser tomber la peinture. Et comme ça, Fernando, d'une façon très légale, empêche cet homme de créer, de peindre. Et il rencontre Catherine Deneuve, qui est une écrivain, qui peut créer aussi, non seulement avec son écriture, mais avec sa pensée. Elle peut inventer des choses, faire voir, les gens peuvent voir des choses. Et alors, c'est une bataille entre elle et Fernando Rey, et à la fin, l'art gagne. Il fallait faire ça, moi. Et j'ai jamais parlé du rôle avec lui, je crois pas que, dit deux minutes, il a lu le scénario, le scénario n'est pas non plus... Je l'ai fait aussi simple possible, donc bon, dans l'explication, il a compris tout de suite, et alors on discutait les scènes individuelles, mais surtout le plus important, c'est le rythme. Comment va bouger la caméra et l'acteur, comment on décrit la scène et le rythme des mouvements de caméra et acteur. Alors ça, c'est ce qu'on discutait avec Fernando. Et des fois, je le dirigeais seulement en sifflant. Alors, tu vas là et tu t'arrêtes là. Je faisais des mouvements. Et il y a quelqu'un qui a rigolé et fait « Non, non, pas du tout, pas du tout, il me monte le rythme. » Et puis alors on se comprenait très bien.
Entrez.
Donnez-moi ce que vous avez écrit.
Ce n'est pas corrigé.
Aucune importance. Cinq pages, pas plus.
Monsieur Perrault?
Oui.
De quoi est mort le sculpteur Beretti?
Comment le saurais-je? Il a disparu sans laisser de traces.
Je l'ai vu se trancher la gorge avec un morceau de métal. Ici, dans cette maison.
En quoi consiste exactement votre pouvoir?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi, vous pouvez montrer ce que vous voulez, quand vous voulez. Alors, c'est sans limite. Vous pourriez dominer le monde.
Peut-être.
The Ceremony, Los Palomos, La Nueva Cenicienta, A Escape Libre, El Hijo del Pistolero, El Greco, Dos Mafiosos contra Goldfinger, Los Jueces de la Biblia, El Señor de la Sal, Misión Lisboa, Cartas Boca Arriba, Campanadas a Medianoche, El Último Rey de los Incas, Return of the Seven Magnificent, Atraco a Lampa, An Immortal Story, Más Allá de las Montañas, Amor en el Aire, Joe el Implacable, Cervantes, Villa Rights, Un Sudario a la Medida, Guns of the Magnificent Seven, La Aventura de un Presidente, The Adventurers, Tristana, Chicas del Club, Los Compañeros, Coartada en Disco Rojo, Una Ciudad Llamada Bastarda, La Luz del Fin del Mundo, Los Fríos Ojos del Miedo, Historia de una Traición, La Cólera del Viento, The French Connection y Due Volti della Paura, Blanco Rojo y Marco Antonio y Cleopatra, Le Charme Discret de la Bourgeoisie, La Duda. Ben, vous voyez, entre des bons films, il y a 10 que... On va pas parler de Orson Welles, parce qu'il a fait... il l'aidait beaucoup, il paraît qu'il lui prêtait la voiture, et il montait les caméras dans sa voiture, mais il n'a pas eu de rôle aussi important qu'avec Buñuel, parce que dans la Campanas de Medianoche, je crois que ça s'appelle Falstaff, il fait un petit rôle et dans Une Histoire Immortelle, on le voit au début, quelques minutes. Mais je trouve qu'il a eu le talent de devenir ami avec des grands metteurs en scène, non, de l'histoire du cinéma.
Ok.
Bah, Buñuel et Welles. Mais Welles, il avait moins de choses pour lui. Moi, en plus, c'était très... Il n'y avait pas une suite comme avec Buñuel.
Il avait avec Orson Welles une passion commune pour Cervantes.
Ah, je ne savais pas.
Oui.
Je sais qu'il dit que l'interprétation de sa vie, le rôle de sa vie, c'est Don Quichotte qu'il a fait pour la télévision espagnole. Mais je ne sais pas qui a dirigé le... C'était la troisième fois qu'il faisait Don Quichotte, parce que d'abord il a fait un rôle secondaire dans un film de Raphaël Hill de l'année 47 par là. Et après il a fait un Don Quichotte dirigé par un Italien qui s'appelait Carlo Rim. Et les Espagnols, ils sont pas voulu du tout le montrer parce que c'était pas mettre en scène espagnol, etc. Donc c'était la troisième fois. La troisième fois, il était très content de sa performance.
Il a eu l'hommage suprême. Ça, pour lui, c'était le couronnement de sa vie. Être l'acteur que l'on choisit pour être le plus grand et le plus célèbre de tous les Espagnols, c'est évidemment un très grand cadeau. D'ailleurs, il avait fait d'énormes efforts pour ce film. Il avait maigri beaucoup, il s'était entraîné à cheval. Il avait également fallu, ça c'était des histoires extrêmement drôles qu'il racontait sur l'amaigrissement du cheval. Rossinante, comment on avait cherché dans toute l'Espagne le cheval le plus maigre qu'on puisse imaginer, comment on l'avait fait maigrir. Il était là-dessus intarissable et très drôle. C'est quelqu'un qui avait un très merveilleux sens de l'humour et qui racontait très très bien ces histoires-là.
Dichosa edad, y siglo dichoso aquel, donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece.
Je crois que c'est sa carrière espagnole qui lui a fait énormément plaisir. L'américaine, c'était utile.
Anne Alvarez Correa.
Efficace. Aussi, financièrement aussi. Il y a des choses qui l'ont rapporté beaucoup en Amérique, c'était French Connection, bien entendu, parce que ça lui a rapporté des demandes américaines. Alors, elle pouvait être intéressante, mais il n'acceptait absolument pas tout, du tout, parce que quand même, il réfléchissait à ce qu'il faisait. Il avait raison, d'ailleurs. Donc, c'était pas que l'argent, c'est pas vrai. Il a fait beaucoup de choses sans argent aussi, ou pour très très peu d'argent. Il faisait beaucoup de choses à côté, des petites choses pour aider, des écoles, des choses comme ça.
Est-ce que pour le spectateur espagnol, c'était en plus un comédien engagé? Est-ce qu'il avait cette réputation-là?
Je pense que pour les cinéphiles en Espagne, il a énormément soutenu les dernières 15 années des jeunes réalisateurs espagnols, parce qu'il y a une catégorie de jeunes réalisateurs espagnols qui montent. Peut-être qu'on ne les fait pas assez voir ici, parce que genre Almodovar, mais il y en a beaucoup d'autres. On n'achète tout simplement pas leurs films. Et lui, il les a soutenus. Oui, il estimait que c'était ce qu'il fallait faire. Et il choisissait, bien entendu, ce qui lui plaisait, ça c'est clair.
Et dites-moi, Raphaël, vous êtes né quand?
Le 22 février 1920.
Ah, mais alors vous êtes un poisson?
Ascendant Sagittaire.
Ah, mais c'est très intéressant.
Je vous sers, Simone.
Volontiers. Merci.
Passez-moi l'assiette de Raphaël.
Poisson Sagittaire. Vous savez que la réunion de ces deux signes jupitériens exalte la grandeur et la force de votre personnalité. Votre nature cherche à dépasser les limites de son moi.
Vous croyez?
François, un peu de flageolet. Oh,
surtout préparé à l'huile d'olive, j'adore ça.
J'en ai mis.
Exprès pour moi.
Raphaël.
Avec plaisir. Votre gigot est excellent.
Pas trop cuit?
Parfait.
Vous aimez participer largement à la vie, Raphaël. Vous vous sentez conduit par de grandes idées et de nobles projets. Votre esprit ouvert vous fournit une vue synthétique de l'univers.
La prochaine fois, vous viendrez dîner à la maison. Vous goûterez mon caviar à la cuillère. Je sais que vous aimez ça. Florence nous préparera son fameux mélange. Vodka et aquavit.
Oui, oui, oui. Votre sensibilité s'accorde avec votre conscience humanitaire. Mais si vous voulez refuser les idées reçues, encore faut-il les remplacer par une morale personnelle, Raphaël.
J'ai toujours fait ce que ma conscience m'a dicté.
Encore un peu de gigot, Raphaël?
Oui, avec plaisir.
Vous l'aimez pas trop cuit?
Bon, ça m'est égal.
C'est délicieux. Mais je suis peut-être un peu perverse. J'ai un faible pour les flageolets américains en boîte.
Nardi du cinéma, Fernando Rey. Avec Jean-Claude Carrière, Emmanuel Larraz, Guillermo Villela, Juan Luis Buñuel, Pierre Grimblat, Ana Alvarez Correa. Emmanuel Larraz est l'auteur du cinéma espagnol des origines à nos jours, publié aux éditions du CERF. Une émission de Philippe Garbi, mixage Antoine Lehambre et Claire Levasseur. Réalisation Josette Collin.
Cette émission a été diffusée le 27 février 1996 sur France Culture.